quels sont les deux livres indispensables dans votre bibliothèque? Ceux que vous voulez conseiller à d'autres designers et designeuses? C'est la question que nous posons aux designers et designeuses que nous rencontrons. Ils, elles, partagent avec nous leur lecture indispensable, les livres qui les inspirent ou questionnent leur pratique quotidienne. Ce cinquième épisode s'intéresse aux bibliothèques du X-Writer. Apolline Semelekat nous livre des classiques, mais également des petites pépites que l'on peut trouver sur Internet pour s'approprier, comprendre et maîtriser le X-Writing. Si vous avez des livres à nous conseiller ou si vous souhaitez participer à ces épisodes, n'hésitez pas à envoyer un mail à livre@designmasterclass.fr. Vous souhaitez découvrir plus d'épisodes? Rendez-vous sur notre site internet designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter et profiter de différents bonus.
Je suis Apolline, j'ai 29 ans, je suis rédactrice web freelance depuis juillet 2019 et depuis quelques mois je me passionne pour l'UX writing et j'en ai fait mon grand objectif 2021 d'être à temps plein UX writer et de délaisser la partie rédaction web. Enfin, déjà je vais parler du côté frustrant que j'ai de la rédaction web et qui m'a amené justement à l'UX writing. Je faisais un peu le tour de la rédaction web. Et j'ai remarqué aussi que j'écrivais des articles sur des sites qui n'étaient pas forcément compréhensibles, surtout que j'écris pour le secteur de la santé, donc il y a quand même un sacré jargon. Et donc du coup, j'écrivais des articles sur des sites pas très compréhensibles, avec pas mal de termes techniques. Donc c'était très frustrant parce que je voulais apporter un maximum de valeur. Et puis au final, c'était pour rediriger vers des pages du site qui n'étaient pas compréhensibles. Donc du coup, petit à petit, je me suis intéressée à l'UX writing en sachant que j'ai aussi un entourage de designers auxquels, quand ils avaient des discussions en soirée, je ne comprenais absolument rien et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce métier et je me suis intéressée à ça et j'ai découvert petit à petit l'UX writing et l'importance des contenus dans l'expérience utilisateur. Le premier livre qui m'est venu en tête et dont j'avais envie de parler, même si je crois qu'il a déjà été évoqué dans un précédent épisode de podcast, c'est le guide de la microcopie de Kinrei Yefra, donc qui est un livre sur l'UX writing, le premier livre traduit en français qui présente vraiment les méthodologies liées à l'UX writing. Et en fait, moi qui ai découvert l'UX writing fin 2019, j'avais commencé à lire pas mal d'articles sur le sujet et j'étais tombée sur Kinrei Yefra qui est basée en Israël et qui a créé une agence sur l'UX writing. Ça tombait pile au bon moment, en fait. J'ai découvert qu'elle écrivait un livre, il sortait en janvier, donc je l'ai précommandé directement et ça m'a vraiment permis d'avoir les bases du X-Writer et d'avoir déjà une méthodologie de base, même si forcément il faut l'enrichir au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure des apprentissages et des lectures. Donc c'était vraiment une évidence pour moi de citer ce livre-là parce que il m'a donné le goût du métier, le goût de l'UX Writing. Quand on débute l'UX writing, je pense que c'est vraiment un livre à avoir pour débuter, pour avoir quelques méthodologies de base, que ce soit sur le design de la voix d'entreprise, mais aussi sur écrire efficacement des micro-contenus sur une interface, que ce soit des contenus liés à l'inscription, à la connexion, au formulaire, au message d'erreur, au message de confirmation, au temps d'attente, au bouton. Enfin, c'est vraiment une base hyper complète pour commencer, pour initier ce métier-là du UX writing. Donc, j'ai pas forcément un message particulier que j'ai retenu, mais j'ai retenu vraiment le livre et qui m'a donné envie de creuser sur d'autres ressources anglophones pour le coup. Parce que pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de ressources francophones sur le sujet. Le livre, il m'a vraiment servi à, quand j'ai eu mon premier client, à construire mes premiers workshops, à savoir quelles questions poser, pour que je puisse concevoir la voix d'entreprise, pour que je puisse concevoir le ton, pour que je puisse élaborer des contenus. Et en fait, petit à petit, avec d'autres clients sur d'autres missions, je me suis rendu compte que telle question, ça allait pas forcément, ou ça me convenait pas, ou au final, ça aboutissait à pas grand chose. Donc du coup, j'ai progressivement, et je le fais toujours et je le ferai toujours, affiné ma méthodologie en posant d'autres questions. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est de pas prendre au pied de la lettre une méthodologie d'un bouquin. C'est vraiment à vous d'enrichir la méthodologie que vous avez dans votre métier, avec vos apprentissages, avec vos lectures, mais une méthodologie qui vous correspond et que votre client vont comprendre. Il y a un passage au début du livre que j'ai particulièrement retenu et qui est sujet à discussion d'ailleurs parmi les UX writers, la communauté du UX writer en France et parmi les designers, c'est que le métier du UX writing, en fait, il est nouveau, il est tendance. Donc du coup, des boîtes peuvent faire appel à un UX writer pour ajouter un petit coup de peps, un petit coup de quelque chose de cool au contenu et avec de l'humour à la back market par exemple. Et en fait, il y a un passage dans le livre qui est hyper intéressant et qui résume le fait que l'humour c'est bien, mais ça doit jamais être au détriment de la compréhension. Quand on parle UX writing, on croit souvent à tort que pour sonner humain, il suffit d'être drôle. Cette façon de voir les choses a parfois pu aboutir à de l'UX writing qui en fait trop. Dans ces cas-là, nous avons l'impression que les auteurs ont tellement essayé d'être cool qu'ils en ont oublié qu'ils écrivaient pour de l'UX. Alors comment bien utiliser l'humour dans votre UX writing ? Premier conseil, seulement s'il est en accord avec votre personnalité. Deuxième conseil, seulement de la manière qui correspond le mieux à votre public cible. Troisième conseil, assurez-vous que le trait d'esprit n'est pas la seule caractéristique de votre écriture. Quatrième conseil, sachez vous arrêter. Cinquième conseil, ne faites jamais rien en détriment de la clarté. Si vos utilisateurs doivent s'arrêter et vous relire pour comprendre, c'est mauvais signe. L'humour peut venir compléter d'autres qualités de votre écriture, mais ne doit jamais s'y substituer. Sixième conseil, montrez-vous sensible à la situation, notamment si l'interface bug ou qu'une erreur page 404 apparaît. Et septième conseil, vérifiez combien de fois vos utilisateurs lisent vos blagues. Quand vos utilisateurs lisent la même blague pour la troisième fois, ce n'est sans doute déjà plus une blague. Alors, le deuxième livre que j'ai retenu et qui m'a marqué et qui a changé un peu ma façon de voir les choses autant professionnellement que personnellement, c'est le livre de Simon Sinek qui s'appelle « Commencer par pourquoi » ou « Start with why » qui est très connu. Et il me semble que je l'ai découvert dans une newsletter de Stanislas Leloup de Marketing Mania, il en avait parlé dans une newsletter. Et en fait, ça a été vraiment une révélation. Depuis toujours, et je pense comme pas mal de monde, je m'interroge un peu sur le pourquoi je suis sur Terre. Et appliqué à la raison d'être d'une entreprise, ce livre-là a vraiment fait écho en moi. Et je trouve que tout le monde devrait se poser la question pourquoi je fais ce que je fais. Et notamment les entreprises qui ont réussi, qui sont sorties du lot, sont celles en fait qui ont des fondateurs qui se sont interrogés sur leur pourquoi et non pas sur leur quoi, qui se sont interrogés sur pourquoi ils font ce qu'ils font. Et en fait, seul le pourquoi va permettre aux utilisateurs, aux acheteurs, aux gens, à des êtres humains, de s'identifier, de faire communauté et de faire confiance. Et vraiment, le pourquoi, ça permet de durer dans le temps, de guider vers les bonnes décisions, les bonnes actions intuitivement et qui respectent notre vision, nos valeurs. Et le pourquoi, ça, enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça et Simon Sinek le souligne très justement, le pourquoi, ça nous donne vraiment envie de nous lever chaque matin et d'être prêt à en découdre avec la journée qui commence. Donc, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Donc, si y en a encore qui l'ont pas lu, je le conseille vraiment de le lire. Depuis que j'ai lu ce livre, j'ai vraiment arrêté de m'éparpiller sur différents projets et sur des idées d'entreprise complètement farfelues. Et maintenant, je sais où je vais, dans quelle direction je vais. Et mon cerveau me dit merci. Il est bien plus reposé comme ça. Et donc, le passage que je voulais vous lire, c'est en page 39 au cas où. Très peu de personnes ou d'entreprises peuvent expliquer clairement pourquoi elles font ce qu'elles font. Lorsque je dis pourquoi, je ne veux pas dire gagner de l'argent, c'est un résultat. Par pourquoi, je veux dire quelle est votre mission, votre cause ou votre croyance. Pour quelle raison votre société existe-t-elle? Pourquoi sortez-vous du lit chaque matin? Pourquoi qui que ce soit devrait s'en préoccuper? Lorsque la plupart des entreprises ou des personnes pensent, agissent ou communiquent, elles le font de l'extérieur vers l'intérieur, du quoi vers le pourquoi. Il y a une bonne raison à cela, elles commencent par l'élément le plus clair en allant vers celui qui est le plus vague. Nous expliquons ce que nous faisons, nous disons parfois comment nous le faisons, mais nous disons rarement pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Ce n'est pas le cas des sociétés qui sont inspirantes ni des leaders inspirants. Chacun, peu importe sa taille ou son domaine, pense, agit et communique de l'intérieur vers l'extérieur.
Peux-tu me parler de ta bibliothèque, des objets qui y trônent et quel est ton rapport à cet endroit ?
Si je pouvais passer mes journées à lire, à être payée à lire, ce serait le big dream. Et en ce moment, d'ailleurs, je lis l'autobiographie de Barack Obama. Et en fait, il a toujours eu une pièce à lui où il y avait plein de livres complètement éparpillés, des journaux, des magazines, des notes volantes. Et sa femme appelle toujours cette pièce le trou. Et je trouvais ça assez drôle. Et moi aussi, j'aimerais bien avoir une pièce comme ça. Là, je suis dans mon bureau actuellement et j'aimerais avoir des étagères tout autour avec remplies de livres. Et pour l'instant, en fait, mes livres sont un peu disséminés partout dans la maison, que ce soit dans le bureau de mon conjoint, dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre, un peu partout. Et c'est un peu mon rêve d'avoir vraiment des murs de livres. Et pour l'instant, ma petite bibliothèque principale, on va dire, qui est dans le bureau de mon conjoint, bah en fait, il n'y a pas vraiment d'objets qui trônent parce que j'aime bien que ce soit carré, et de mettre en avant les livres, et les livres c'est sacré, et donc du coup j'ai pas trop envie de mettre des choses, même si il y a sûrement des souvenirs glissés dans les livres, mais en fait ouais, mon rapport à la bibliothèque et aux livres, c'est que je m'y sens bien, et c'est un bon moyen de s'échapper et aussi de s'ouvrir à d'autres choses et d'apprendre énormément.
Ben, enchanté, je suis Samuel Marc, je suis Lead UX Writer conversationnel chez SpeakUX. Donc en fait, on est une agence basée à Paris et on spécialise dans la conception d'expériences conversationnelles et on fait également de la formation. On travaille sur des chatbots, des assistants vocaux, des callbots, ça peut aller très loin, de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, je suis en mission chez un client qui est le leader européen, de la téléconsultation médicale, donc qui s'appelle Divi. Je m'occupe de la copie française pour tout le groupe. Au quotidien, ma fonction de lead va m'amener à exercer des missions de pilotage, de stratégie en fonction des différents projets qu'on peut avoir au sein de l'agence. J'ai envie de dire que j'ai commencé à faire de l'UX writing avant même que le métier n'existe vraiment, en tout cas avant même qu'il ne porte ce nom. Moi, je suis rentré par la porte du journalisme. À la base, je viens du journalisme. J'ai fait ça pendant quelques années et au bout d'un moment, je me suis orienté vers le conseil, vers le consulting, et j'ai commencé avec des missions de gestion de projet éditorial. J'ai commencé en tant que chef de projet éditorial chez Air France. Et chez eux, j'ai eu la chance de collaborer sur beaucoup de projets. Donc ça a commencé par de la gestion de page, de la mise à jour, de la création. Et puis petit à petit, j'ai des petites missions un peu ésotériques qui sont arrivées. Concevoir les libellés de boutons, travailler sur une application mobile, revoir la hiérarchisation de l'information pour des menus, faire du tri de cartes, etc. Et petit à petit, si tu veux, ce métier du UX-Writer s'est plus ou moins imposé à moi, ça portait pas encore ce nom-là. Et ça m'a amené jusqu'à travailler sur le premier chatbot d'Air France, Louis. Et c'est comme ça vraiment que j'ai mis le pied dans la grande maison de l'UX et de l'UX-Writing. Je vais te parler de deux ressources aujourd'hui pour une raison très, très concrète. C'est parce que j'ai déménagé il y a peu de temps. Et en fait, l'essentiel de ma bibliothèque est encore dans des cartons. Donc, sous la main, j'ai pas forcément d'ouvrages du X-Design ou autre. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de deux ressources accessibles en ligne qui sont pour moi inestimables pour tous les UX-Writers, conversationnels ou non. Donc, la première ressource dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est le site du Nielsen Norman Group. Donc tout est passionnant sur le site, moi j'adore y passer des heures, mais la section qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle qui s'appelle « Writing for the Web ». Dedans, vous allez retrouver des articles que je qualifierais de cultes, en tout cas c'est comme ça que je les considère. Je suis tombé sur ce site pour la première fois alors que le métier du X-Writer ne portait même pas encore ce nom, si tu veux. J'étais chef de projet éditorial en mission chez Air France et c'est une ressource qui est très vite devenue ma référence dès que j'avais besoin de guidelines, d'études, de chiffres ou d'inspiration. Pour moi, le message le plus important que j'en ai tiré, c'est que ce métier, les métiers de l'éditorial digital en général, je parle du X-Writer, copywriter, concepteur, rédacteur, ça peut être aussi une science, en plus d'être un art. On peut se baser sur des données scientifiques, sourcées, fiables, et ça, c'est plutôt sympa, c'est plutôt intéressant. Donc cette ressource, pour moi, c'est un outil simple à mettre en pratique qui va vous aider à mettre des mots et des données sur des intuitions. C'est comme ça que je l'utilisais, moi en tout cas. Ça va vous aider également à faire valoir votre rôle et à prouver l'importance de votre métier dans votre organisation. Donc c'est super important sur l'aspect évangélisation. Ça prouve, avec des chiffres et des données, qu'écrire, c'est du sérieux, que l'UX writing, c'est du sérieux. Je vais vous lire un extrait d'un article qui date de 2006. Donc, c'est écrit par Jacob Nielsen lui-même. C'est le rapport d'étude qui a mis au jour le schéma de lecture en F des contenus sur le web. Donc, c'est devenu classique depuis. Le titre complet, c'est F-Shaped Pattern for Reading Web Content. Il a été mis à jour depuis, mais l'étude reste d'actualité. C'est une des raisons pour lesquelles vous entendrez souvent les UX writers dire que les gens ne lisent pas. F comme fast. C'est la façon dont les utilisateurs lisent votre précieux contenu. En quelques secondes, leurs yeux se déplacent à une vitesse incroyable sur les mots de votre site web, selon un schéma très différent de celui que vous avez appris à l'école. C'est fascinant d'observer les mouvements des yeux des utilisateurs au ralenti lorsqu'ils lisent et parcourent une page. Le principal facteur déterminant pour la facilité d'utilisation des contenus est la façon dont les utilisateurs lisent en ligne. Et vu que les gens lisent différemment, il faut écrire différemment. Deuxième ressource dont je vais te parler, elle m'a tout simplement sauvé la vie il n'y a pas très longtemps. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais c'est tout comme. Il s'agit des règles du français faciles à lire et à comprendre, ou FALC. C'est un ensemble de règles qui ont pour but de rendre l'information facile à lire et à comprendre du plus grand nombre. Et notamment par les personnes qui ont des difficultés avec la lecture. C'est édité par Inclusion Europe, donc ça c'est un groupement international d'associations pour les personnes handicapées mentales. Alors celle-là, je l'ai découverte alors que je travaillais sur la déclinaison française du Style Guide de clients. En fait, la version anglaise faisait référence à ce qu'on appelle le Plain Language, qui est un concept assez similaire. C'est plutôt bien répandu chez nos voisins anglo-saxons, en Angleterre et aux États-Unis. En France, en revanche, on a une approche de la langue qui a tendance à la mettre un peu sur un piédestal. On est le pays de l'Académie française, après tout. Et j'ai eu du mal à trouver un équivalent au Plain Language. Une ressource qui présenterait de façon formelle les recommandations et les best practices d'accessibilité et que les UX writers pourraient appliquer au quotidien. Dans cet ensemble de règles-là, moi, la ressource que je vais vous recommander aujourd'hui et celle que j'utilise au quotidien, c'est en fait une checklist qui contient environ une trentaine d'items qu'on peut trouver en français sur le site de unapay.org. Et c'est en fait, pour moi, c'est les commandements de l'accessibilité, en fait. Le message le plus important, il n'y figure pas forcément. Pour moi, le plus important concernant cette ressource, c'est le fait qu'elle permet de rendre les interfaces au moins l'UX copy accessible aux personnes en situation de handicap. Et du coup, en ce faisant, on les rend plus accessibles à tous. Si tu veux, c'est une application du curb cut effect. En aidant les plus vulnérables, on aide tout le monde, en fait. Alors, selon moi, c'est vraiment une ressource à mettre entre les mains de toutes celles et ceux qui ont à produire du contenu, tout domaine confondu, que ce soit le print ou le digital, ça va même au-delà du design, et bien évidemment les UX writers. Alors évidemment, toutes les recommandations ne sont pas toujours applicables, hein, vous verrez. Mais gardez ça dans un coin de sa tête, sur un mur de l'open space, ou au moins dans ses favoris. Je pense que ça peut que faire du bien. Je vais vous lire 10 règles. Alors c'est présenté sous forme de questions, mais c'est d'une efficacité assez redoutable. Les phrases sont-elles courtes? Les mots sont-ils faciles à comprendre? Les mots difficiles sont-ils clairement expliqués lorsque vous les utilisez? Le langage utilisé est-il le plus adapté aux personnes qui vont utiliser l'information? Le même mot est-il utilisé tout au long du document pour décrire la même chose? L'auteur s'adresse-t-il directement aux personnes à qui sont destinées les informations? Des phrases positives plutôt que négatives sont-elles utilisées chaque fois que possible? La voix active est-elle utilisée à la place de la voix passive chaque fois que cela est possible? La ponctuation est-elle simple? Les mots difficiles sont-ils expliqués plus d'une fois? Donc voilà, ça a l'air super simple comme ça, mais franchement, je te dis, garder ça dans un coin de sa tête, ça te change la vie, quoi. C'est-à-dire que dès que tu dois attaquer un contenu, te dire est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment le plus simple que je puisse faire. Moi, je suis assez extrémiste à ce niveau-là. Et donc voilà, pour moi, c'est devenu la Bible, quoi.
Peux-tu me parler de ta bibliothèque, des objets qui y trônent, et quel est ton rapport à cet endroit?
Alors, comme je te le disais, la plus grande partie de ma bibliothèque est encore en carton. Donc, en ce moment, c'est une petite bibliothèque de Caen qui trône dans mon bureau. Donc, elle contient quelques ouvrages que j'ai achetés depuis mon déménagement. Donc, en ce moment, j'ai un livre sur l'histoire des États-Unis. J'en ai un autre sur la révolution des esclaves à Haïti. Et j'ai aussi Civilisation de Laurent Binet, dont je suis fan depuis la septième fonction du langage. J'ai développé une sorte d'obsession il n'y a pas longtemps au niveau fiction et je voulais lire que des livres qui parlaient d'autres livres. Donc j'ai beaucoup apprécié celui-là. J'en ai profité pour acheter les œuvres complètes de Borges d'ailleurs. Sur le dessus du meuble, il y a mon appareil photo que j'ai un peu délaissé ces derniers temps. Et puis il y a un de mes nombreux casques audio, étant donné que la musique joue un rôle vraiment majeur dans ma vie, peut-être autant que l'écriture. Sinon, de mémoire, je peux te citer quelques ouvrages qui me tiennent particulièrement à cœur. J'ai donc encore des œuvres complètes, celles d'Aimé Césaire. Il y a Les 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Beaucoup de philosophes martiniquais, Édouard Glissant, notamment. Et de mes années d'études, j'ai gardé quelques ouvrages que je n'ai pas vendus à Gibert. Dont des livres de linguistique sur l'histoire de la langue qui me passionnent encore aujourd'hui.
Bonjour, je suis Kat, je suis UX writer et auparavant j'étais concepteur-rédacteur. Beaucoup en agence, je suis freelance depuis 8 ans et j'ai évolué depuis 4 ans sur l'UX writing. J'ai bossé pendant 2 ans sur une mission pour une grande banque et là je suis depuis 1 an et demi pour une grosse marque de luxe. Le premier livre que j'ai choisi, c'est de Christopher Moore, et ça s'appelle « Les plus jolis mots du monde ». Ce livre, donc, il parle de tous les plus jolis mots du monde, et en particulier des mots qui sont intraduisibles. Je trouve que ce livre, il est important parce qu'il te permet de... Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien. Il te permet de faire un pas en arrière et de garder en tête, en fait, que... chacun est différent ou ça peut être de penser à d'autres, que ton point de vue n'est pas universel, à essayer de regarder les choses autrement que de la première façon dont elles t'apparaissent, quoi. Et en fait, toutes les expériences, surtout à l'international, enfin même en fait, même dans un même pays, en fait, chacun est tellement différent que quelque part, c'est un peu bizarre que même si évidemment, je comprends l'intérêt, genre pour le business et tout ça, mais voilà, je trouve qu'il y a des idées qui sont très opposées à vouloir faire des expériences, la même expérience pour tout le monde, quoi. Ce petit livre, voilà, c'est toujours un point de vue différent et ça t'apprend des choses, enfin voilà, ça t'apprend à réfléchir, ou alors en tout cas ça te permet de garder en tête qu'il faut toujours réfléchir, il faut toujours regarder plein de points de vue et twister ses idées, etc. Donc c'est pour ça que j'adore ce petit bouquin. Et puis en plus il se lit, enfin un peu comme des poèmes, etc. Tambos, c'est en grec il me semble, en grec ancien peut-être même. Et c'est face à la nature, dans tous ses états, du calme le plus exquis à la plus extrême violence, de son éblouissante immensité à la beauté de l'infiniment petit, que ressentir? De la crainte, de la joie, admiration, effroi ou respect, quelle qu'elle soit, nos émotions sont forcément un curieux mélange de tout cela que les Grecs appellent « tambos ». Ce mot résume à lui seul tous les sentiments mêlés qui accompagnent l'hébétement pétrifié que peut inspirer ce qui échappe totalement à notre compréhension. Le deuxième livre que je voulais te présenter, c'est un peu la même chose que mon livre précédent, mais version dessin. Et pareil, je le trouve hyper intéressant pour presque les mêmes raisons, parce qu'il permet de regarder les choses avec une autre perspective. Et donc, ce petit livre s'appelle « Devenir un expert du Raku Gaki ».
Et c'est un espèce d'art du dessin japonais. Et donc, c'est en fait, c'est un petit livre qui te dit déjà que pour dessiner, bah, c'est pas la peine de savoir dessiner. J'aime bien déjà, ça approche. Et par exemple, comme parfois les gens en photo, quand ils prennent une photo, ils ont vu quelque chose qui leur a fait, qui leur a suggéré l'idée, l'envie de prendre une photo, mais ils vont vouloir rentrer plein de choses dans le cadre. Et donc à la fin, en fait, quand vous voyez la photo, vous ne savez pas forcément ce que la personne a vu, et puis il y a plein de choses, et on ne sait pas où regarder. Avez-vous déjà vu des nids de larves de moustiques ? Ce sont des trous creusés dans la boue par les moustiques pour déposer leurs larves. La maison dans laquelle j'ai grandi est entourée de rizières, où la surface de la boue, ramollie avant l'été par l'humidité, en est remplie. Autant vous dire une chose, c'est totalement répugnant. En observant ces nids, j'ai découvert une manière totalement révolutionnaire de dessiner des choses repoussantes. Commencez par dessiner un point, puis mettez-le entre parenthèses, vous obtiendrez alors un trou qui aura l'air plus vrai que nature. Dessinez maintenant le visage d'une personne et ajoutez-y ces petits trous. Sa peau ne sera plus qu'un nid de larves. Le résultat sera tellement répugnant que cela en deviendra jouissif. Ah, quel plaisir de pouvoir dégoûter les gens juste avec des parenthèses et des points. De tout mon parcours de dessinateur de Rakugaki, je pense que cela reste ma meilleure trouvaille. Moi, j'adore le point de vue de l'auteur parce que, bah, évidemment, on voit une rizière, mais qu'est-ce qu'on voit en fait ? Genre, il y a des bouts d'herbe, il y a du ciel, il y a plein de choses en fait dans ce qu'on voit. Et lui, il va choisir de commencer à dessiner cette petite larve qui est dans un trou paumé, je sais pas où, dans la boue. Enfin voilà, c'est tout est comme ça pour changer de point de vue, pour voir les choses autrement, pour apprendre à dessiner quelque chose d'immense mais en prenant un tout petit détail, ou à l'inverse, c'est au-delà de savoir dessiner parce que ça n'a pas d'importance. Enfin, en tout cas, selon l'auteur, vous pouvez ne pas savoir dessiner, il faut déjà apprendre à regarder, donc à comprendre ce que vous voyez, à regarder autrement, et voilà.
Peux-tu me parler de ta bibliothèque, des objets qui y trônent, et quel est ton rapport à cet endroit ?
J'ai tout un pan de mur avec mes livres préférés. J'arrête de garder tous les livres. Je garde vraiment que les livres maintenant que j'aime beaucoup, qui m'ont vraiment marqué, parce que j'en avais trop, et genre, dans les déménagements, c'est un enfer. Moi, je suis passionnée de dessin et des chevaux, donc j'ai mes livres de chevaux. Ceux-là, il n'y a pas beaucoup de tri qui est fait. J'ai mes livres de dessin, voilà, c'est des livres que je lis même pas en fait. Je vais beaucoup, j'aime bien les objets, donc je vais choisir les livres parce que j'adore la BD aussi, mais parce que j'aime le style, le trait du dessinateur, etc. Parce que l'objet est beau, donc du coup je vais m'y attacher comme objet. Donc ceux-là je vais les garder. Après les livres que je lis, souvent, bon, une fois que je les ai lus, soit je vais les revendre ou les donner s'il y a des boîtes à livres, etc. Enfin voilà, ou les échanger avec des amis, etc. Mais voilà, si je les ai lus et qu'ils m'ont pas transcendé, à part quelques livres que j'ai vraiment adoré que je garde depuis que je suis petite, sinon je m'en sépare. Et donc voilà, c'est beaucoup de livres, bah, le graphisme j'aime bien. Graphisme, dessin, équitation. Je regarde quelques... Ouais, et puis... En gros, c'est ça, la grosse base de ma bibliothèque. Ou des livres beaux, quoi.